Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous, bonne année 2026. Et aujourd'hui, on découvre ensemble, pour cette nouvelle année, les bonnes pratiques, les méthodes et les retours d'expérience du livre blanc de l'AFNOR sur l'élaboration d'une stratégie d'IA dans une collectivité locale. Alors, accordez-vous 30 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, éthique, politique, un petit peu technique, et aujourd'hui territorial.
Cause commune, 93.1 FM.
Et vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune-au-singulier.fm, sur notre app mobile, Android ou iPhone, également sur la bande FM 93.1 à Paris ou le DAB+. Vous avez bien sûr, vous allez aussi nous retrouver sur votre plateforme de podcast préférée. Merci monsieur Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre cet espace de liberté sur les ondes et de nous construire de si beaux outils. Chers auditeurices, nous n'avançons que grâce à vous et votre grand pouvoir, celui du partage et du like. Si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et partageant notre émission. Nous adorons aussi lire vos commentaires sur Spotify, sur Apple Podcast, sur LinkedIn. C'est notre seule récompense et ça nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes. Et...
c'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Depuis le début de cette troisième saison, si vous êtes attentif, depuis septembre, du coup, nous interrogeons les actrices et les acteurs des collectivités locales qui se sont engagés dans une démarche IA. Depuis septembre, nous construisons cette série de témoignages en partenariat avec l'AFNOR dans la perspective de la publication du livre blanc L'IA au service des territoires. Eh bien, ça y est! Depuis fin 2025, le livre blanc est disponible en ligne. Vous le retrouverez dans le lien en description de cette émission. Vous allez pouvoir vous référer à cet outil qui devient indispensable pour définir de zéro ou simplement pour comparer votre stratégie IA. La publication est particulièrement adaptée aux collectivités locales, mais elle est parfaitement valable pour tout type d'organisation qui souhaite se lancer ou aller plus loin dans une démarche IA. Le livre blanc a été écrit par des experts, inspiré par plus de 30 entretiens de collectivités et synthétise de nombreuses ressources utiles. Il est structuré, AFNOR oblige, selon la logique de la norme ISO 42001. On va voir que c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça décrit la démarche en passant par les grandes étapes, depuis la vision, puis la mise en place d'une gouvernance, puis la mise en œuvre de votre projet, et enfin l'amélioration en continu. Bon, pour nous le faire découvrir, nous avons avec nous la déléguée secteur public du groupe AFNOR, grande chef d'orchestre de ce livre blanc. Bonjour, Alima Pujol.
Bonjour, Jean-Philippe Clément.
Merci d'être avec nous en studio. Alors, parlez-moi d'IA, Alima. Puis peut-être commencez, s'il vous plaît, par nous expliquer pourquoi et comment le groupe AFNOR s'est donné cette mission de produire un livre blanc sur l'IA au profit des collectivités.
Merci Jean-Philippe de nous avoir invité et le groupe AFNOR effectivement à votre émission. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Alors le groupe AFNOR, c'est quand même un acronyme pas forcément connu de tous, même si aujourd'hui les normes NF, normes françaises, vous entourent tous du sac poubelle en passant par votre ordinateur et votre téléphone portable. La maison AFNOR, en fait, moi je dis souvent, c'est la maison des bonnes pratiques, en fait. AFNOR veut dire Association Française de Normalisation. Ouh, mon Dieu, ça fait mal. En fait, derrière les normes, il faut entendre non pas les normes réglementaires, on a une mission d'utilité publique, mais c'est de fabriquer des normes volontaires, c'est-à-dire de co-fabriquer avec la société civile des lignes directrices, des guidelines, des recommandations sur l'état de l'art, sur un sujet donné, qui soit technique ou sociétal. Et évidemment, l'intelligence artificielle est un enjeu sociétal majeur et l'AFNOR ne pouvait pas ne pas participer aux travaux de l'ensemble des acteurs sur ce sujet.
Et d'ailleurs, c'est pas votre coup d'essai, vous avez commencé avec Ecolab, du Commissariat Général au Développement Durable, vous avez contribué à guider déjà les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, vers une IA qui est utile, qui est réfléchie, avec la fameuse spec AFNOR 2314 sur l'IA frugale, et nous avons déjà reçu ici Juliette Fropier, d'Ecolab, qui est venue nous parler de cette spec, dans le Parlez-moi d'IA 39, pour ceux qui sont intéressés d'aller l'écouter. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter de nouveau, du coup, avec cette contribution du livre blanc?
Vous savez, les travaux aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, que ce soit à l'ISO, donc l'organisme international de normalisation où la France est représentée, sont en cours et avancent bien. Nous, on a besoin effectivement pour les organisations public et privé, de rassurer. Effectivement, on est sur un marché technologique, j'ai envie de dire, qui est en mouvance,
oui,
qui va structurer l'ensemble des organisations dès aujourd'hui et demain. Les risques auxquels nous sommes confrontés et la manière dont on va appréhender ce que je vais appeler les systèmes de management de l'IA sont essentiels. Donc ce qu'on va apporter, ce qu'on a voulu apporter avec ce livre blanc, c'est déjà faire un état de l'art de ce qui se pratique en France.
Mmh.
30 entretiens auprès de collectivités qui vont de la région au département, en passant par les intercommunalités et en passant par des communes comme Verneuil ou la métropole Rouen-Normandie. Vous voyez qu'on a quand même un large spectre, une large représentativité. Ces pionniers, ils font... Voilà, ils représentent tout ce que la France fait déjà, ils sont inspirants. À côté, nous avons des guidelines qui existent, il y a déjà un panorama normatif qui existe. Ce qu'on a voulu faire, c'est mettre les choses bout à bout et présenter ça et mettre ça au commun pour que tout le monde puisse s'en saisir, puisque notre mission d'intérêt général, c'est justement de mettre au commun cet état de l'art.
Et c'est ce qui m'a marqué, moi, en lisant le livre blanc, c'est vous êtes allé chercher finalement toutes les bonnes pratiques, tous les bons exemples dans tous ces témoignages, et avec leur autorisation, d'ailleurs, leur reproduction parfois de leur manière de représenter leur démarche, et souvent des outils très très utiles pour, quand on veut commencer ou quand on veut éventuellement compléter une démarche IA. Alors, je le disais un peu en introduction, le livre blanc, il est structuré, forcément, hein, c'est un livre blanc de l'ISO, de l'AFNOR, et donc il est structuré selon les normes et la démarche que vous savez faire. C'est quoi, du coup, la structuration de ce livre blanc? Comment vous l'avez construit?
Alors, on a choisi de prendre la structuration de l'ISO 42001.
Alors, expliquez-nous ce que c'est que la norme, enfin, ISO 49001, et puis nous dire que finalement, ça fait pas si peur que ça.
42001, Jean-Philippe. Mais donc la norme 42001, c'est en fait une norme de système de management de l'intelligence artificielle qui a été publiée fin 2023, hein, de mémoire, donc elle est assez récente. Elle permet de structurer une démarche, en fait, hein, et de se conformer aussi à l'ensemble du panorama réglementaire européen, hein, qui est quand même assez... on a choisi quand même des valeurs et une éthique particulière en Europe. Et elle permet de structurer, en fait, l'intelligence artificielle dans son système d'information, dans son management, dans sa gouvernance, jusqu'à son dispositif de pilotage. Alors, une norme, l'avantage de la norme ISO 42001, c'est qu'elle s'aligne, elle est structurée comme toutes les autres normes. Alors, ça porte des noms poétiques, pardon, hein, ISO 9001, ISO 14001, mais l'avantage, c'est qu'elles sont toutes structurées de la même manière.
Oui.
C'est-à-dire, on planifie, on essaie quelle vision, à quoi ça sert, quelle stratégie on a,
oui,
comment on implémente, et comment on pilote et on s'améliore. Donc c'est cette structuration-là que nous avons choisie pour vous inviter, vous aussi, lecteurs, à aller voir à quoi ça ressemble, parce qu'on n'est pas obligé du tout de se faire certifier derrière, mais ce sont des lignes directrices qui peuvent être très utiles pour structurer sa pensée.
Et chaque sous-partie du livre blanc, on retrouve exactement la même structuration, donc rappel des enjeux pour chaque partie, les questions clés à se poser quand on veut aborder cette question, la liste des bonnes pratiques que vous avez synthétisées, et puis là, large passe au témoignage de tout ce que vous avez recueilli, des témoignages inspirants. Cette manière d'organiser les choses, c'est quoi? C'est une méthode AFNOR? C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure que vous vouliez écrire ce livre blanc? C'est parce que c'est très synthétique, on dirait des fiches, et puis on peut passer d'une thématique à une autre, comme ça, toujours de la même manière.
Merci Jean-Philippe. Nous sommes la maison de la robustesse. Et la robustesse, c'est quand même ça va devenir, je dirais, un pilier majeur face au contexte que l'on vit aujourd'hui, et notamment en matière de numérique et d'intelligence artificielle. Et effectivement, l'ADN de l'AFNOR, c'est apporter cette structuration, cette architecture qui permet effectivement d'être, je dirais, fort et résilient en même temps. Ouais. Ce n'est pas non plus la rigidité.
Et alors, la question qu'on pose souvent quand on a ce type de publication, c'est finalement... De quoi vous parlez? C'est quoi votre objet? Parce qu'en fait, l'IA, c'est tellement large, c'est tellement protéiforme qu'à un moment donné, il faut toujours se dire, bon, alors, de quelle IA on parle ou de comment on en parle. Là, en l'occurrence, vous parlez plutôt de quoi? De l'IA générative ou même plus globalement de l'IA spécialisée dans les métiers? Est-ce qu'il y a une distinction que vous faites dans le livre blanc ou vous parlez de l'IA en général?
Alors, notre intention, ça a été de parler de l'IA en général.
Ok.
Ensuite, en fonction des entretiens qu'on a eus, on verra par exemple, vous lirez l'exemple de Cannes, effectivement, ils ont fait une focale sur l'IA générative, c'est celle qui fascine quelque part.
Oui.
Mais vous verrez également les exemples du Sicoval qui nous parle de l'IA prédictive, ou d'autres, hein, Noisy-le-Grand, etc. Donc en fait, quel que soit ce qui compte, c'est pas tellement le choix de l'outil, c'est la façon dont on a la stratégie qu'on aborde, pour la stratégie qu'on adopte, pour élaborer cette intégration de l'IA dans nos métiers et dans nos politiques publiques.
Et finalement, vous commencez par quelque chose, on va dire, d'évident, de dire à tout le monde, ayez déjà un objectif clair vis-à-vis de l'IA. Alors, malgré tout, quel est votre conseil pour définir un objectif clair d'une organisation vis-à-vis de l'IA?
Alors, peut-être ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer à tester et partir de manière dispersée, je dirais. Hein. Mmh. Parce qu'effectivement, on est quand même sur un monde fascinant, là, un monde technologique fascinant. Quand on dit une intention claire, c'est effectivement se dire, à quoi va servir cette IA? Est-ce que cette IA, en quoi elle va nous être utile? Il faut que l'intention, elle soit politique et qu'elle soit formalisée. Comme toute stratégie d'ailleurs, hein, toutes les normes de système de management vous dit qu'il faut fixer une intention stratégique. À Cannes, voilà, leur intention stratégique est assez claire, c'est de dire l'IA pour reprendre plus d'IA pour plus d'humains.
Oui.
Voilà. Donc l'IA n'est pas utilisée uniquement pour l'IA, hein, c'est pas l'IA pour l'IA, c'est pas la solution magique, c'est l'IA pour libérer du temps, c'est de l'IA pour améliorer le service public, c'est de l'IA pour améliorer les conditions de travail. Et d'ailleurs vous verrez qu'en en filigrane, je dirais que quelque part les collectivités, parce qu'elles ont cette mission d'intérêt général, vont vers cette direction-là. Il y a l'intention, je dirais, et ensuite il y a les objectifs stratégiques qui caractérisent cette intention. Et là aussi, il y a un exercice, et pas simplement de style, à faire, c'est de se dire, je reprends l'exemple du Sicoval, qui dit, nous, on a cherché à détecter, à préserver la ressource en eau. Ils ont une stratégie très environnementale, une IA sobre, frugale, mais pas que. Bon, donc ils ont un objectif, diminuer, faire la loi des 80-20 et réduire les fuites d'eau. Je sais plus combien ça leur a rapporté, mais c'était ça l'objectif. Mmh. C'est précis, c'est kinesthésique. Voilà.
Et en plus de ça, vous les appelez à s'appuyer sur leurs grandes valeurs finalement et à assumer leurs valeurs. Alors c'est vrai que vous venez de le dire, le service public, du coup, pose ses grandes valeurs plus facilement peut-être que d'autres organisations, mais c'est aussi ça la base de l'intention.
Effectivement, quand on a des valeurs fondamentales, un peu comme la région Occitanie le cite, hein, mais le réseau des interconnectés également travaille sur ces six valeurs, voilà, une IA frugale, une IA sobre, une IA souveraine, une IA qui soit utile, etc. Vous le verrez dans le livre blanc. Selon, je dirais, les élus qu'on a, les valeurs que l'on porte, ces valeurs, elles fondent en fait notre stratégie. Je veux dire, à l'Eurométropole de Strasbourg, quand on entend Caroline Zorn, vice-présidente au numérique à l'EMS, eh bien, on voit bien que ça va jusqu'à se dire, nous, on accorde un droit de retrait, ça m'a beaucoup marqué,
oui,
ça,
vous avez
un
raison,
droit de
c'est
retrait
un très bel exemple.
Aux agents de ne pas utiliser l'IA, à partir du moment où c'est argumenté et se solide. Ça touche tellement aux droits fondamentaux et que nous, EMS, on y est très attachés, eh bien, on a tous voté, on a voté ceci dans notre doctrine.
Et vous, d'ailleurs, effectivement, vous appelez et vous constatez et vous appelez à faire en sorte que cette stratégie s'appuie sur le vote des organes délibératifs de chaque collectivité, justement pour lui donner aussi une dimension véritablement politique. Et donc souvent c'est aussi en lien avec le fait de créer une sorte de document de référence. Ça, vous appuyez quand même beaucoup sur l'idée que c'est quel que soit le type de document de référence, il en faut un à un moment donné.
Oui, alors ça se résume souvent quand on est dans l'opérationnel, on se dit bon ben on va faire une charte IA, on a déjà une charte du numérique et on y va, on rajoute des éléments sur l'IA. Ce qui m'a marqué dans les entretiens avec Montpellier, l'élu de Montpellier, Monsieur Reynaud ou Manu Reynaud ou encore dans ce Pierre Janin de Rennes Métropole, c'est effectivement de se dire qu'il y a des instances de gouvernance différentes qui doivent être le plus large possible et qui ont des raisons d'être différentes. Il y a certes, la participation citoyenne, par exemple, à Rennes, elle est fondamentale parce qu'on veut une IA démocratique. Et ça, c'est donc aujourd'hui, à Rennes, on fait appel aux citoyens pour demander leur avis, leurs recommandations, mais également au niveau du bilan. Par exemple, hein. Donc c'est quand même une interpellation. L'IA se place au niveau politique. À Montpellier, alors Manu Reynaud parle de super prompt, vous lirez sa manière de le dire, mais c'est presque constitutionnel, vous voyez. Donc il y a certes des instances de gouvernage, il y a des instances de pilotage, d'arbitrage, mais il y a même des instances de veille, parce qu'aujourd'hui, cette révolution technologique, elle change tous les jours, en fait, même si on a les fondamentaux, mais on est encore à venir. Pas mal de ruptures, on va dire. Hein. Donc, la veille, face à la prolifération des outils et de leurs usages, et de l'évolution de leurs usages, c'est aussi éminemment important au-delà de la gouvernance opérationnelle, élus, agents, administration. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose de penser comme... très large, cette façon de gouverner.
Et dans le secteur public, on l'a vu hein, au fil de nos entretiens avec les collectivités ici, il y a aussi la place des organisations syndicales dans la démarche.
Oui, oui, complètement. Et c'est vrai que, par exemple, à la région Occitanie, c'est assez intéressant, vous regarderez aussi. Eux, ils ont commencé par un entretien... enfin, un questionnaire, je veux dire, auprès de leurs agents, en fait. Hein. Et ils ont été assez surpris, parce qu'il y avait une adhésion, en fait. Hein. Alors, évidemment, c'est pas le cas partout. Hein. Vous verrez d'autres exemples où c'est peut-être moins facile. Mais en tout cas, ça aide à cette appropriation. Et la plupart des entretiens qu'on a menés, effectivement, il y a une consultation des organisations syndicales, parce que ce sont des partenaires. Et ça va même plus loin. Quand on va sur la région Occitanie, ils ont un comité de gouvernance qui réunit les partenaires clés du territoire, en fait. Hein. Et ouais. C'est ou même aussi Coval, parce que de toute façon, le numérique, c'est aussi un levier de développement économique pour le territoire.
Oui.
Donc forcément, on fait ensemble.
Et puis, on le voit bien, ceux qui ont essayé de stopper la vague de l'utilisation de l'IA, du shadow IA dans leurs organisations n'ont pas réussi. Ça a plutôt même été des gros échecs. Et on est encore une fois plutôt dans des démarches, dans toutes ces collectivités, d'accompagnement, d'explication, de sensibilisation, plutôt que d'essayer de tout arrêter. Ça, c'est vrai que cette impasse est désormais bien claire. Bon, vous parliez aussi du coup, et là, moi, j'ai, à la veille des élections municipales, hein, qui va un peu renouveler quand même les communes de France, c'est vrai que je suis pas sûr que ça soit un grand sujet de l'élection municipale, mais c'est peut-être dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions derrière l'IA, des questions de souveraineté, d'autonomie. Bon, en tout cas, l'outil est là pour aider peut-être les candidats, qu'en pensez-vous ?
Moi, j'invite effectivement les élus à se saisir de cette question de l'IA. Ce n'est pas une question technique, c'est vraiment une question politique. Et je ne suis pas seule à le dire, c'est-à-dire que demain, ça sera effectivement un levier de modernisation et d'accélération des politiques publiques. Et celui qui n'aura pas saisi cette question-là sera fort dépourvu, en fait.
Hein. Oui. On passe à l'étape suivante quand on suit le livre blanc, c'est l'étape du diagnostic et de la feuille de route. Il y a un moment donné où voilà, on sait où on va, quelle vision, quelle valeur, et on établit une première feuille de route selon vos recommandations. Est-ce que c'est un sujet qui est difficile? Comment on fait finalement pour établir une feuille de route dans une collectivité ou dans une organisation? Comment vous préconisez les choses?
La première chose, c'est effectivement qu'il y a une phase de sensibilisation, d'acculturation, même si cette phase de formation, elle se fait tout le temps au début, avant, pendant, après. Mmh. Elle est particulièrement importante au moment de la pose des fondations. On a passé l'étape, je pose les fondations, vision, valeur, stratégie, intention, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mmh. Il y a déjà cette formation, notamment des élus, du comité de direction, parce que si eux ne sont pas convaincus et s'ils ne savent pas où ils vont, on est bien ennuyé. Et après, effectivement, ça passe par une formation de tous, en fait, hein, parce qu'on sera tous concernés. Pierre Janin disait, ce qui est assez fascinant avec l'IA, c'est qu'on avait l'habitude des politiques publiques transversales, mais ça là, elle est plus transversale que jamais, en fait. Hein. Elle touche les fonctions, les politiques publiques, mais aussi les fonctions support. Elle touche tout le monde, à la fois à l'horizontale et à la verticale. Donc, plus ou moins, donc les formations et les sensibilisations, on n'a pas tous besoin de la même chose, mais personne n'est épargné. Donc, comment on sensibilise? Et effectivement, on sensibilise, je dirais, ça passe par des formations, ça passe par l'acculturation, ça passe par aussi cette gouvernance qu'on a déjà vue. En fait, c'est tout un faisceau de leviers, en fait, qui permet cette acculturation. Et elle va être plus ou moins nécessaire selon l'endroit d'où on part. On ne part pas de la même manière dans la région Occitanie où il y a déjà les agents utilisent l'IA déjà au quotidien, personnellement, et sont plutôt favorables, 80% je crois, souhaitent être formés, que dans tel conseil départemental ou telle commune où il y a encore des peurs et des mythes à déconstruire. Donc la déconstruction des mythes, elle est essentielle.
Et ça, c'est juste avant l'étape de recensement, pour le coup, de vrais projets ou de vrais besoins au sein de la collectivité. Encore une fois, on revient sur l'utilité.
Oui. Alors ça, c'est vraiment, ça aussi, c'est une manière de d'embarquer. Si on part pas, en fait, des besoins des agents, des métiers, on passe à côté, en fait. Ça, on le sait, de toute manière, dans tout projet maintenant, aujourd'hui, on a, et plus que jamais, besoin de coller aux irritants. Cannes cite, je recite cet exemple parce qu'ils sont assez avancés, ils interrogent leurs agents et les métiers sur quels sont les irritants, quelles sont les tâches chronophages, quelles sont les choses que vous ne pouvez pas faire faute de temps, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment des questions très simples. Ils n'ont pas demandé quelles sont les solutions IA que vous souhaitez qu'on achète.
Ils sont partis du métier.
Ils sont partis du métier. Et je cite en parallèle l'exemple de... je crois que c'est l'association Impact IA, une association d'entreprises privées, parce que c'est toujours bien de comparer et de voir comment chacun avance de son côté. Et lui, il nous cite l'exemple de Bouygues, où il travaille.
Ouais.
Et il nous dit... notre PDG, il a dit je veux que ce soit les directeurs métiers qui viennent pitcher en direction générale sur les besoins métiers et sur leur stratégie. Il ne s'agit pas de faire venir l'expert IA de chaque entité. Mais ça montre vraiment qu'on a cet intérêt à dire qu'il faut une IA qui soit utile et qui soit à valeur ajoutée.
Et qui parte des directions générales des BU.
Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, on revient du coup sur cette thématique-là. On l'a vu avec le baromètre Data Publica, l'implication désormais des directions générales est essentielle dans ces démarches-là. Et c'est un bon indicateur aussi de maturité de la collectivité.
Complètement. C'est même incontournable, j'ai envie de dire. Hein. Alors, on peut se dire au début, on va faire que... Aujourd'hui, on va utiliser plutôt de l'IAGEN pour permettre à tout un chacun de répondre aux besoins de synthèse, de compte-rendu, de contenu, en fait. Hein. Mais de plus en plus, on va toucher. C'est pour ça que la question de la différence entre IA générative et IA et l'IA classique est moins pertinente, je dirais. C'est que forcément, à un moment donné, la frontière, comment dit-on, perméable, en fait. Ouais. L'IA générative va toucher les IA spécialisées, métiers, ouais. et l'IA spécialisée va se servir, et inversement.
Bien sûr. Moi, ma grande question, c'est que c'est un peu ce qu'on évoquait en introduction de cette émission. C'est finalement, on voit bien que cette démarche, il faut la structurer, il faut à la fois être le plus précis possible dans l'utilité. Je pense qu'il faut aussi quand même savoir se ménager des zones de souplesse, des droits à l'erreur, comme on dit. Et puis, les normes, vous disiez les normes volontaires, les normes proposées par l'AFNOR peuvent aider justement dans ces démarches-là. Quel type de normes peuvent aider? Comment l'AFNOR peut aider finalement dans ces démarches?
Je vais le dire très simplement, c'est-à-dire que si vous partez en voyage au Mexique, au Brésil ou je ne sais où, vous partez pas en se disant j'y vais et on verra. Vous avez forcément des pense-bêtes, des checklists.
Vous êtes le guide du routard de l'IA.
Un guide du routard. Eh bien, c'est à peu près ça, ces documents de référence, hein, si j'appelle pas ça norme, ces documents de référence, ces bonnes pratiques, elles sont là pour pas réinventer la poudre, en fait. Hein. Ouais. Elles vous permettent d'avoir des lignes directrices, une checklist de choses à penser, à ne pas oublier. Qui sont en fait le recensement de tout ce que les uns et les autres ont pu dire de manière structurée, on ne va pas s'en passer.
Non. Et donc pratiquement, comment ça se passe? Je fais appel à vous, je vous appelle, je vous dis, voilà, j'aimerais bien un peu structurer ma démarche. Il y a une antenne régionale de l'AFNOR qui peut me prendre en main et m'aider.
Vous pouvez, alors nous, notre mission, c'est effectivement de fabriquer avec la société civile ces normes. Donc, on a une mission d'utilité publique qui est aussi de diffuser ces normes. Hein. Donc, dans chaque région, vous avez une délégation régionale où vous pouvez les consulter. ISO 27001, ISO 27701 pour les données, ISO 42001 et j'en passe et des meilleurs. Hein. Vous le verrez dans la liste de notre glossaire en fin de document. Mais il y a cette idée de dire, je peux effectivement consulter, acheter la norme, merci, ça nous fait vivre aussi, mais je peux aussi demander à réaliser un test, un audit de maturité IA, pour savoir si effectivement je suis prêt. Je peux aussi me faire accompagner, alors nous on travaille avec un écosystème de consultants et d'experts qu'on met à disposition des collectivités et des organisations. Et enfin, je peux me faire certifier. Alors, je cite l'exemple de Nantes Métropole qui sont certifiés ISO 27001. Allez les voir, demandez-leur pourquoi ils ont fait ça.
Sur quel sujet ?
27001, c'est-à-dire le management du système d'information. Jacques Priol disait, je crois, pas d'IA sans data, hein, il n'est pas le seul à le dire. Si on n'a pas des data structurées, un système d'information qui soit bien architecturé, il n'y a pas d'IA. Donc, quand on est ISO 27001 et qu'en plus on est certifié, on est sûr d'être conforme à un certain nombre de réglementations, mais d'aller encore beaucoup plus loin par rapport à cet alignement de son système d'information au regard de l'intégration de l'IA.
Et alors, pour conclure, si vous deviez donner des indications, des conseils à une organisation qui veut se lancer, vous diriez quoi ?
Pour se lancer, suivez les quatre étapes
du
livre blanc. Hein, je ne vais pas les reposer. On est tous en phase d'expérimentation. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin et de vous dire que ce qui va être important demain, c'est d'anticiper ces transformations. Et anticiper les transformations, ça se travaille à trois niveaux. À la fois sur notre organisation, c'est-à-dire que demain, l'organisation du travail risque d'être sérieusement chamboulé. On le voit aujourd'hui avec effectivement des licenciements dans le secteur privé, mais pas que. C'est-à-dire que tous nos métiers vont être hybridés, voire augmentés. C'est important d'anticiper ces changements et d'organiser ces processus. Il va falloir également anticiper au niveau technologique. Il faut de la robustesse dans nos systèmes d'information et dans nos data, je n'y reviens pas. Et enfin, anticiper cette transformation, c'est aussi travailler sur notre relation usager-administration, parce que là aussi, on va avoir des changements majeurs parce que demain, l'usager ne se comportera comme un pro-consommateur, comme le dit un professeur de Polytechnique. Et là, il va falloir changer notre façon d'être. parce que il va y avoir des bouleversements là aussi.
Merci Alima. Merci d'être venu nous présenter ce très riche livre blanc que nous vous invitons à lire et à télécharger. Le lien en description de l'émission. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Jean-Philippe de cette invitation. Ravi d'avoir pu contribuer à ce travail avec mes quatre autres co-auteurs.
Et merci à vous, chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, usez de votre grand pouvoir, likez cet épisode, manipulez les algorithmes pour nous aider à diffuser ce contenu plus loin. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et on se dit à bientôt.